radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Bien, nous parlons, nous abordons à présent notre premier thème de ce jour. En République démocratique du Congo, la corruption est devenue presque une règle d'or, une norme pour certains, et certains vont loin pour dire que c'est devenu presque une institution. Les dégâts économiques de cette pratique sont inestimables. L'argent qui aurait pu servir à la réalisation des projets sociaux comme les hôpitaux, écoles et à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de l'État est souvent détourné. Au finish, cet argent se retrouve dans les poches ou les comptes bancaires de certaines personnes mal intentionnées et égoïstes. Alors, que dit la loi congolaise à propos de la corruption? Quelles sont les sanctions prévues par la loi? Maître Rufin Louko, juriste, écrivain et chercheur en droit, est notre invité ce matin. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody Kassian.
La première question, évidemment, comment la loi congolaise définit la corruption?
Ah, voilà. Voilà, là, nous allons prévenir à nos auditeurs que nous abordons là le thème, l'un des thèmes les plus importants de cette série d'émissions, la corruption. Parce que la corruption a la particularité, à elle seule, d'être le fléau principal qui s'attaque, n'est-ce pas, à la démocratie. Le fléau principal qui fait que tous les pays du tiers-monde soient maintenus dans les sous-développements et dans la misère. La corruption, elle seule. Et donc, il faut commencer par le commencement, n'est-ce pas? Plaçons le décor.
Voilà.
Plantons le décor. La corruption, quid? La corruption, d'abord, lorsque vous lisez dans le dictionnaire, la corruption, c'est, n'est-ce pas, l'altération d'une, n'est-ce pas, substance par putréfaction. C'est ça la corruption. Donc, lorsqu'on dit la viande est corrompue, ça veut dire la viande.
Elle commence à pourrir.
Est gâtée.
Oui, elle est gâtée.
Voilà, vous utilisez le terme fort.
Oui.
Pourriture.
Pourriture, voilà.
Donc, ce qui est corrompu est pourri.
Oui.
Alors, on peut donner un exemple. À l'époque, la presse avait dit que non, les généraux du maréchal étaient pourris. Ça veut dire, lorsqu'on apprenait que les généraux eux-mêmes vendaient les chars de combat, les véhicules, les armes, et ceci, cela. Donc, pour la presse, on ne comprend pas qu'un général d'armée peut vendre le matériel pour la guerre. Donc, ça, donc, il n'y a plus rien. Et comme pour le sida, la corruption s'attaque à la conscience du devoir. Donc, à la colonne vertébrale de la substance d'un homme qu'on appelle la conscience.
Donc, c'est un mal dévastateur.
Donc, dévastateur. Et lorsqu'elle commence par s'attaquer à un individu, avancer à rempart, elle écroule toute l'institution, soit qu'anime l'individu, ou dans lequel cet individu, n'est-ce pas, est inscrit ou est incorporé. Donc, c'est pour dire tout simplement que non. Nous allons planter les décors pour démontrer combien la corruption est dangereuse. Alors, vous avez demandé, que dit la loi?
Oui.
Que dit la loi? Hélas,
le code pénal.
C'est le code pénal.
Oui.
À son article 147, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, c'est la section 7 du code pénal. Article 147 est suivant. C'est là qu'il est parlé de la corruption. Et là, la loi, à partir de l'article 147, distingue la corruption active et la corruption passive. Ça veut dire, la personne qui s'est fait acheter, et là, la loi précise que ces gens-là, tous, principalement, doivent être des agents de l'État. C'est-à-dire, ceux qui agissent au nom de nous tous, quelle que soit l'institution, le service dans lequel il est incorporé, la personne qui agit au nom de tout le monde et qui se laisse acheter, alors qu'il devait faire son devoir, accomplir son devoir, normalement, mais il se fait acheter pour faire ses devoirs, ou bien pour s'abstenir de le faire. Ça, c'est la corruption passive pour la personne qui s'est fait acheter. C'est-à-dire l'agent de l'État, les cadres de l'État, l'animateur d'une institution qui se laisse corrompre.
Donc on peut dire que la définition de la corruption, la corruption, c'est le fait de se faire acheter.
Par des promesses, se faire acheter, évidemment, pour les communautés communautaires, parce qu'ici, nous avons l'habitude de réduire les choses, n'est-ce pas? De les rendre accessibles. La personne qui se fait acheter pour un devoir, c'est ça la corruption passive. La corruption active, n'est-ce pas? C'est le fait pour la personne, n'est-ce pas, de venir et proposer, dit non. Moi, j'ai besoin de tel document. Vous avez besoin de combien? Ou bien j'ai déjà autant, vous me donnez ce document. Donc, c'est la démarche du corrupteur qu'on appelle la corruption active. Ça veut dire, la personne vient, il a besoin de ceci, il a besoin que vous, qui êtes chargé de ce devoir-là, vous puissiez faire cela ou cet autre-là, eh bien, vous proposez une offre, je vais faire tout pour qu'on puisse vous élever en grade, pour qu'on puisse vous puissiez démarrer à votre fonction, faire ceci et cela, et puis vous, vous me ferez cela. Donc, ça c'est la corruption active. Mmh. Et malheureusement, et là nous avons dénoncé ça, le taux de la peine, c'est de 6 mois à 10 ans. C'est puni comme le vol simple, c'est puni comme les
coquilles. 6 mois à 2 ans.
6 mois à 10 ans. Et évidemment, on dit non, ça peut monter jusqu'à 10 ans, hein, lorsque la gravité est telle, mais au moins la peine initiale, c'est de 6 mois à 10 ans. Et cette loi-là est de 1940, et nous avons dénoncé plusieurs fois le fait que, dans cet ensemble, n'est-ce pas, de la corruption, il y a l'impunité qui fait que, l'impunité, ça veut dire, le fait que les gens se sont organisés pour que dans tous nos cours de tribunaux, il y a beaucoup de procès sur le faux en écriture, il y a beaucoup de procès sur l'occupation illégale des terres, il y a beaucoup de procès sur le conflit foncier, mais rarement. Donc tu peux voir une fois les 6 mois, un tout petit procès quelque part sur la corruption, ça doit être un agent qui a réussi $20, $50, même il y a ceux qui sont produits pour 5 000 francs.
Mais donc, ça veut dire que la grande corruption est organisée comme une
dans
mafia.
Dans l'impunité totale.
Donc il y a les gens, on peut dire qu'ils fonctionnent un peu en réseau quoi.
C'est une gangrène qui bénéficie.
À plusieurs personnes.
Qui bénéficie à plusieurs
personnes. Qui se protège aussi.
Non, pour mieux se protéger de la corruption, la règle c'est qu'on ne mange pas seul. On ne mange pas seul. Vous faites ce que l'ICOCO appelait je mange, tu manges, nous mangeons, nous nous taisons. Ça c'est l'ICOCO, hein, n'est-ce pas, oui. La Ligue congolaise de lutte contre la corruption.
La corruption oui.
Donc, bref, nous avons beaucoup de choses à démontrer par rapport, n'est-ce pas, à ces fléaux. Qui a comme accessoire qui ne marche pas seul. Hein. La corruption ne marche pas seul.
Est-ce que c'est différent des pots de vin? Quand on parle des pots de vin, est-ce que c'est différent
non,
de la corruption?
Non, c'est un conglomérat-là oui. Des faits dans lesquels il y a la corruption qui englobe tout. Il y a les détournements de biens publics. Il y a, n'est-ce pas, les faux en écriture. Oui. Il y a le mensonge. Il y a ce que vous appelez pot de vin, tout cet ensemble. Au Katanga, on appelle
opération.
Ça Katamilomo. Oui. À Kinshasa, on appelle ça Madesu Yabana.
Opération retour à l'expéditeur. Vous avez entendu parler de ça aussi.
Opération retour à l'expéditeur. Et ça a causé beaucoup de mal à notre défense nationale. Et bien, beaucoup trop de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, vous verrez dans tous les services, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.
Dans la caisse de l'État, il n'y a pas d'argent.
Alors que les gens ont l'argent. Ce sont les gens qui ont l'argent. Et là, on n'a pas l'argent pour donner de l'eau à la population, pour donner le courant à la population.
Pour payer les fonctionnaires de l'État.
Pour les cours gratuits, alors que les gens ont l'argent. Et dans les caisses de l'État, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans, dehors de quelques gouvernements. Gouvernement Mabimulumba, gouvernement. Non, le procureur général à l'époque, Kengo Wadondo. Gouvernement Bimilumba, gouvernement, n'est-ce pas, Tshisekedi, Laurent Désiré Kabila, et depuis, il n'y a plus personne qui a décidé d'affronter la corruption, et nous nous retrouvons là où nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Vous vous rappelez le rapport Mayobo, le rapport Lutundula, le rapport Bakandeja, tous ces rapports-là sont dans les trottoirs, uniquement parce qu'il y a la sécurité sociale en ce qui concerne les corrompus et les corrupteurs. À telle enseigne que j'ai dit que c'était mal.
Le rapport des experts des Nations Unies.
Des Nations Unies, là, n'en parlons même pas. Il y a plus de 3-4 experts, Mamping et consorts, tout ça. Tout ça dans les trottoirs, parce que les corrompus et les corrupteurs sont tellement au la peau dure qu'ils savent se couvrir par une toile de faux qui fait que la sécurité sociale, pour eux, c'est l'impunité.
Oui.
Et il faut donc que pour que nous en sortions, nous puissions nous redresser, n'est-ce pas, et nous engager pour lutter contre la corruption, parce que c'est le mal principal qui gangrène non seulement presque toute l'Afrique, et donc pour nous en sortir, et vous verrez même dans les quelques pays qu'on dit que non, ces pays-là ont pris la relance vers le développement, ont commencé d'abord par s'organiser pour lutter contre la corruption, et lorsqu'on décide de lutter contre la corruption d'une façon intrépide, eh bien, vous avez la possibilité de générer des recettes.
Mmh.
Et lorsque vous générez des recettes, vous demanderez moins de l'aide à l'extérieur. Parce que la RDC, Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous a prouvé que si nous luttons contre la corruption, nous aurons de l'argent et nous ferons 3 ans comme lui, 10 ans, 20 ans, ça demander de l'aide. Parce que nos ressources, s'ils sont bien gérés, parce que la corruption, et tout ça nous allons dire avec les questions des auditeurs, la corruption incarne à elle seule ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance.
Donc lorsqu'on parle de mauvaise gouvernance,
on voit directement...
c'est l'uniforme
de la corruption,
qui est porté par toutes les institutions. Alors là, on parle de la mauvaise gouvernance.
Que dit la loi congolaise sur la corruption? Nous avons déjà trois auditeurs en ligne. Kabeya nous appelle de Kananga, Doudou est à Mbujimayi, Malonga à Bandundouville. Vous voulez également participer? Appelez au 081-890-63-94.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur RadioCapi.net.
Que dit la loi congolaise sur la corruption? Kabeya, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, les journalistes, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Kabeya.
Oui, je voudrais d'abord donner l'aperçu général sur les problèmes tels que moi, je vois ça en République démocratique.
Non, Kabeya, on n'a pas assez de temps à passer directement à la question parce que les autres attendent. Soyez bref et rapide.
Ok, je voudrais demander à l'invité. Parce que nous remarquons que la corruption au Congo est devenue tout un système. Vous n'êtes pas branché, vous ne pouvez pas faire quelque chose de bon. Parce que nous remarquons que quand vous voulez même avoir un emploi, si vous ne partez pas dans le sens de la corruption, vous n'avez pas cet emploi-là. Alors j'aimerais lui demander, pense-t-il que les problèmes doivent être résolus au niveau mental, psychique du Congolais, ou c'est juste un problème de loi?
D'accord, merci, merci Kabeya. Doudou, vous êtes en Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama. Bonjour, c'est à l'invité.
Quelle est votre question?
Ok. D'abord, la corruption ces derniers temps a pris l'ampleur ici au Congo. Ça devient tout un système. Pour intégrer même la politique, il faut être corruptible. Donc la corruption est partout, dans des écoles, dans des universités. Ok. Au Congo aujourd'hui, vous savez que...
Quelle est la question, Doudou? Quelle est votre question, Doudou?
Oui, je vous dis aujourd'hui que... Nous avons plusieurs lois qui n'est pas toujours en application. Donc ici, nous avons des lois juste pour embellir les tiroirs.
Oui.
Maintenant, oui. Ma question, je m'adresse maintenant à l'invité. Quelle est la loi? Donc, qu'est-ce qui est prévu si une autorité arrive à corrompre? Par exemple, en France, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour tentative de corruption. Mais ici, si une autorité arrive à corrompre, qu'est-ce qui est prévu, je dis Daniel Kachama?
D'accord, merci. Malonga nous appelle de Bandundouville. Bonjour.
Bonjour aussi à vous tous, là-bas qui êtes au studio.
Quelle est votre question?
Bon, je vais demander seulement à notre invité, est-ce qu'on peut trouver combien de sortes de corruption? Et puis, encore, moi je vois que la corruption tient compte de l'influence. Est-ce que si il y a quelqu'un là qui te connaît, ou bien qui est sûr de toi, vouloir ou pas, il doit être pour vous et il doit vous favoriser. Et ces faveurs-là, c'est ça la corruption. Est-ce que les faveurs qu'on fait pour quelqu'un, ou bien quelqu'un, c'est une corruption ou bien ce n'est pas une corruption? Comme aujourd'hui, nous sommes fiers, nous les Congolais, d'être candidats aux assises du jugement international là-bas. Boulaboula est là. Vous voyez, les affaires du Congo, nous tous nous serons contents qu'il sera là pour vraiment bien trancher ça. Est-ce que ça sera au sens de corruption ou de quoi? L'éclaircissement de la part de l'invité.
Merci. Ignace Ndala, d'Ecolozi, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour l'invité. Une préoccupation,
oui.
Une question. Je veux savoir quelle est la sanction réservée à l'État, ici particulièrement à l'État congolais, que je semble voir... qui met, n'est-ce pas, ces gens dans une situation où ils sont obligés à un certain moment de se laisser corrompre. Je voudrais ici dire, est-ce que la loi ne serait pas à bonne si on la relativisait? Par exemple, pour voir les catégories des agents, ceux qui sont bien payés, qui sont corrompus, et ceux qui sont très mal payés et qui sont corrompus. Merci.
Ok, merci. Maître Lufin.
Merci beaucoup. Alors, c'est beaucoup de questions à la fois et beaucoup d'auditeurs. D'abord, il faut rappeler que la corruption est un fléau paralysant. Ça veut dire elle commence par emporter, d'abord attaquer et emporter les surveillants des surveillants. Ça veut dire les institutions qui sont chargées de lutter contre la corruption. Et là, nous avons la justice, nous avons le Parlement, nous avons la Cour des comptes, nous avons l'inspection générale des finances. Donc, elle commence par attaquer, n'est-ce pas,
les surveillants des surveillants. Des surveillants.
Et vous vous retrouvez là. Lorsque le surveillant est, donc la sentinelle est déjà
neutralisée,
quel est le sort de ceux qui sont dans la maison?
Il n'y a plus rien.
Donc, et comme conséquence, la sécurité sociale, donc l'impunité généralisée. Et vous savez, cette impunité généralisée a donné quoi comme phénomène actuellement? C'est ce que j'appelle la corruption violente. La corruption violente qui vient maintenant des mafias qui viennent de l'étranger. Indo-pakistanaises, libanaises et consorts. Et qui, nous l'avons remarqué déjà sur le terrain, pour arracher l'immeuble de 100 000 dollars environ. Ils viennent auprès du ministre ou du DG ou ceci, cela, avec 400 000, 300 000, 500 000. Cette catégorie de corruption, c'est la corruption violente, c'est-à-dire paralysante. Vous ne
donc,
pouvez pas résister.
L'autorité ne fait même donc, pas dire non ou réfléchir.
Comme on dit au Qatar, on vous coupe totalement les lèvres. Donc vous n'avez plus rien à dire parce que c'est une corruption violente. Et tout ça, vous retrouvez maintenant la conséquence, c'est que on accorde des autorisations à des immeubles à être érigés sur le boulevard, c'est-à-dire au bord du boulevard, sans aucun parking. Sans aucun parking, et la conséquence c'est que tous les véhicules qui desservent cet immeuble-là sont exposés sur la voie publique.
Dans la rue, quoi.
Parce qu'on n'a pas exigé les parkings, la corruption est passée par là. Donc, nous pouvons ici...
Vous avez suivi KBAD Kananga nous dit, la corruption c'est pas seulement dans le domaine politique, même il dit même pour avoir l'emploi aujourd'hui, la corruption est partout, dans tous les domaines. Il veut savoir est-ce que c'est un problème mental, psychique ou c'est un problème des lois.
C'est tout ça à la fois. Ça, c'est partout, donc sur la route, dans les écoles, partout. Il faut donc, comme dans d'autres pays qui ont vaincu la corruption, il faut des juridictions spécialisées, il faut des tribunaux spécialisés uniquement contre la corruption.
D'ailleurs, Doudou a parlé de ça, il a parlé même d'un chef d'État, Sarkozy, mis en examen, d'après lui, en France, pour un cas de tentative de corruption.
Mais Sarkozy lui a reproché beaucoup de choses. Il lui a reproché, n'est-ce pas, le financement de sa campagne par la Libye et consorts, et beaucoup de commissions, beaucoup de pots de vin, tout ça.
Oui.
Donc, la démocratie est telle.
Mais ici, chez nous, à un moment, on a parlé de l'opération de tolérance zéro.
Les livres saints, notamment le Coran et la Bible, posent que la justice élève une nation. Et la corruption fait la honte des peuples. Et ça, c'est depuis des siècles. La justice élève une nation, la corruption fait la honte des peuples.
Mais nous, on a commencé à lutter contre ça avec l'opération Tolérance Zéro.
On a commencé, mais on s'est arrêté où est-ce qu'on en... C'est-à-dire, c'est un phénomène où ça ne doit pas être une personne qui lutte. Ça commence par les numéros de la République, qui impulsent toutes les institutions et qui se dotent des institutions spécialisées pour l'aider, n'est-ce pas, à éradiquer le phénomène, eh bien, c'est une lutte de longue haleine. Il faut donc qu'on commence maintenant parce que, j'ai dit paralysante, parce que lorsque les corrompus décident, n'est-ce pas, de lutter contre la corruption, c'est pour abattre le dernier résistant. Lorsque tous ceux qui sont corrompus décident, non, nous commençons maintenant à lutter contre la corruption, attention, c'est pour abattre le dernier résistant. C'est pourquoi nous devons veiller. Et je me rappelle de la phrase de Martin Luther King qui disait que dans la complexité du drame humain, ce qui m'effraie, ce n'est pas la méchanceté des hommes, mais l'indifférence des bons. Ce qui m'effraie, ce n'est pas la méchanceté des hommes, mais l'indifférence des bons et des justes. C'est-à-dire, il y a donc un défi pour ceux qui ne sont pas dans la corruption de prendre, de, n'est-ce pas, de relever. De se mettre à la brèche.
Et de combattre ce fléau.
Et de combattre ce fléau parce alors, que c'est
Malonga, la corruption. Malonga pose la question de savoir quelles sont les sortes de corruptions. Vous avez parlé de la corruption active et passive.
Active et passive. Hein. Principalement. Mais la corruption est en avance par rapport aux institutions. La corruption est de loin. Maintenant, c'est en des structures bien organisées. C'est pourquoi il y a des ministres. Si vous osez commencer à lutter contre la corruption ne tombe pas, c'est toi qui tombes. Vous
parce
voyez le niveau,
la corruption est déjà bien installée, puissante.
Toi, le gouverneur, tu tombes,
elle
continue. Oui. Toi, le DG, tu tombes, toi, le général, tu tombes. Donc, il faut absolument que lorsque nous décidons de lutter contre cette gangrène qui avance à grands pas comme un prédateur et rongea toutes nos institutions qui veillent.
Mais déjà, si la loi ne prévoit que six mois
cette
à deux ans de sanctions, vous voyez que c'est la loi est encore faible.
C'est la loi qui dit que même les corrompus, il y a une peine accessoire lorsque vous êtes coupable de corrompu. Voici,
de corruption.
Je dois lire ça. De oui. corruption plutôt. Je dois lire ça. Les coupables de la corruption, active ou passive, sera en outre condamné en dehors de la prison. Voici ce qu'en outre on ajoute, et donc oui. les peines complémentaires.
Mm-hmm.
La confiscation de la, rétribution perçue ou du montant ou sa valeur lorsqu'elle n'a pas pu être saisie. De l'interdiction pour 5 ans au moins et 10 ans au plus. Après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques ou para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon. Donc, si tu as été condamné pour corruption, vous ne reviendrez plus jamais aux affaires publiques. Mmh. 4. La privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. En fait, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine, si le condamné était un étranger. Voilà. Donc, par exemple, tout ce qu'on a condamné ici pour le trafic des minerais illégaux, pour la plupart qui étaient des étrangers,
oui.
après après avoir purgé leur peine, on doit
ils sont expulsés.
Donc, voilà, c'est les peines. Et je me rappelle, je suis venu ici avec le jugement de celui qui avait vendu, le jugement de la Cour suprême, de celui qui avait vendu notre ambassade, n'est-ce pas, au Japon. Il a vendu notre ambassade au Japon pour s'acheter une villa en Belgique. La Cour suprême l'a rattrapé à l'époque du musée ici. On l'a condamné. N'est-ce pas? Avec ne plus revenir aux affaires pendant 5 ans après avoir purgé la peine. Mais j'étais étonné. J'avais appris qu'il était devenu député provincial alors que cette peine d'interdiction courait et de privation de droits politiques courait. Et il est décédé, n'est-ce pas, avec cette situation-là. Pour dire tout simplement que non, si nous décidons de lutter contre la corruption, nous pouvons gagner comme les autres pays ont gagné. Et c'est maintenant le moment de s'engager dans la lutte contre la corruption.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Qu'est dit la loi congolaise sur la corruption? Victor nous appelle des Kalemi, Aloïs est à Kananga. On commence avec Victor, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité. Enfin, je voudrais une petite question à poser à l'invité dans le cadre de l'enseignement. Est-ce que, y a-t-il probabilité, lorsqu'on corrompt, on se sent un peu fort pour monter dans une classe de montante, mais il se peut qu'il y a de petites faiblesses. Mais on se dit, une fois en évoluant et en montant des classes, on peut fournir un grand effort pour régler la faiblesse qu'il y avait avant. Et ma deuxième question serait de savoir, y a-t-il un âge requis pour être corrompu ou pas? Je pars aussi d'un exemple, peut-être qu'ici à Kalemi, la majeure partie des enseignants corrompus, c'est tous les jeunes, ils viennent de la sixième année, directement ils se lancent dans la carrière d'enseignant. Et je me dis, une fois que je me lance dans la vie active, je n'ai quoi à nourrir ma famille, ils sont facilement corrompus. Voilà, ils disent que je suis encore jeune, l'État ne me garantit rien.
D'accord, merci. Aloïs, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, messieurs. Je dis Daniel Kachama. Et bonjour à Maître Rissan.
Bonjour.
On vous écoute. Hein.
Merci bien. J'avais des petites questions à poser à Maître Rissan.
Oui.
Nous voyons aujourd'hui que la corruption telle que nous l'observons est devenue une monnaie courante, au point de s'ériger même en une valeur, étant donné qu'elle s'est faite en plein air. Cela, personne n'a au moins le coup.
Oui. Aloïs.
C'est le savoir.
Oui.
Allô?
Oui, on vous écoute.
Oui, ma première question était celle-ci. Entre l'auteur de la corruption active, le corrupteur, et l'auteur de la corruption passive, le corrompu, qui est plus fautif que l'autre et qui mérite une grande sanction entre les deux? La deuxième question est la dernière. Qui est habilité à saisir quelle instance dans un cas de corruption? Par exemple, j'assiste dans un cas d'un étudiant qui corrompt son assistant. Moi, en tant qu'une tierce personne, qu'est-ce que l'invité peut me donner comme conseil? Que puis-je faire pour que je puisse décourager cette pratique-là? Voici mes deux questions, messieurs Gilles. Merci à vous. Bon début de semaine.
Merci Aloïs. Amani, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi. Bonjour et bon début de la semaine. Je dis Kachama.
Merci. Quelle est votre question, Amani?
Oui, je voulais demander à l'invité quelle place la République démocratique du Congo occupe, oui, la RD Congo occupe quelle place au monde en matière de corruption.
D'accord, merci. Amani, maître Ruffin.
Et la deuxième question.
Ouais, il y a une deuxième question, allez-y rapidement.
Oui, je voulais demander ça à l'invité. Si la corruption scolaire est punissable par la loi, prenons un exemple. Un élève se trouve incapable de dépasser la classe. Dessus, tu vas aller corrompre son professeur. Et le professeur lui a dit qu'il va passer la classe. Mais curieusement, l'élève se retrouve échoué. Est-ce que l'élève fait saisir le tribunal pour ces cas?
D'accord, merci. Maître Ruffin, vous avez la parole. Revenons d'abord à la question d'Ignace de Colosi qui dit quelle est la sanction réservée à l'État congolais qui ne met pas ses agents dans de meilleures conditions de travail et qui les expose à la corruption?
Voilà. Il veut une réponse.
Oui, il veut une réponse.
La réponse, c'est que les gens ne sont pas bien payés et les gens ne revendiquent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dedans. Ils considèrent que non, ça nous suffit. C'est étonnant que chez nous, les gens nombreux sont mal payés et ne revendiquent plus. Les syndicats ne font plus le travail parce que les comités de gestion ont récupéré ou soudoyé les syndicats et les syndicats ne revendiquent plus. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que ça révèle que vous vous contentez maintenant d'être corrompu, de s'adonner à ça et vous ne revendiquez plus. Mmh. Donc, l'État est responsable, c'est vrai, nous le réclamons, nous le clamons chaque jour. L'État est responsable de ne mettre pas bien les gens dans des conditions d'être à l'abri de la corruption.
Est-ce qu'on peut porter plainte contre l'État pour...
Oui, mais l'État est condamné chaque fois. Lorsque les militaires sont condamnés ou les policiers, l'État est condamné comme civilement responsable. Ça veut dire, de la faiblesse des agents, l'État est condamné, il assume. Il est condamné solidairement à payer, n'est-ce pas, aux victimes, conjointement avec ses agents ou ses organes, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont agi dans la faiblesse dans laquelle l'État les a mis.
Alors, entre les corrupteurs et les corrompus,
qui est le plus fautif?
Sévèrement puni par
la
loi.
Non, il n'y a pas de plus fautif, les deux sont plus fautifs.
La sanction est la même pour les deux.
Elle est la même, en dépit du fait qu'il y a une modalité, n'est-ce pas, pour aggraver... La question principale, c'est l'intégrité des personnes. Moi, j'enseigne, ça fait une dizaine d'années, dans les universités, quelques universités du pays.
Oui.
Eh bien, mes étudiants savent que je donne le taux dès l'introduction du cours. Que appliquez-vous dès maintenant. Ça veut dire, ce n'est pas parce que nous sommes, comme on dit par les chrétiens, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Oui.
Vous ne pouvez pas vous incorporer dans la corruption et dire que non, moi je vais lutter contre la corruption. Vous ne pouvez pas prendre cette parole telle que je la prends ici. Si vous-même vous êtes dedans, il faut protéger son intégrité. La corruption détruit la personne. Donc, et l'expérience et tous les séminaires, toutes les conférences auxquelles nous avons assisté constatent et prouvent que les corrompus ne résistent plus à rien. Ils ne résistent plus à rien. J'ai dit au départ que la corruption attaque la colonne vertébrale de la conscience de la personne. La conscience au devoir du travail bien fait. Lorsque vous êtes corrompu, vous ne résistez plus à rien. Vous pouvez commettre les fautes écritures, vous êtes dans la boisson, dans les boissons,
oui.
Vous êtes dans
l'ivrognerie. Même avec un petit montant, vous pouvez...
Vous ne résistez à rien. C'est pourquoi tout est vendable, on vend les routes, on vend les écoles, on vend les hôpitaux, tous les terrains sont vendables parce qu'un corrompu ne résiste à rien.
Voilà.
Vous verrez que tout dirigeant qui est corrompu ne résiste à rien. Alors, la corruption scolaire. Ça, c'est le grand drame.
Mmh.
Que les enfants apprennent à corrompre dès le maternel.
Et vous avez même appris cet étudiant et cet élève qui dit son niveau est faible, mais il préfère corrompre comme
d'abord,
ça.
D'abord, il va améliorer
là-bas.
Non, c'est-à-dire, vous êtes déjà mis en caution lorsque vous êtes corrupteur. Ça veut dire, il faut résister. Nous, à notre époque, on a chassé nos universités ici. À l'époque, nous n'avions que trois. Kinshasa, Lubumbashi, on nous appelait des campistes, des
Kisangani.
Et Kisangani. On chassait des étudiants pour corruption, renvoyés de l'université. On t'a attrapé, donc le professeur à qui vous avez amené l'argent, t'a attrapé devant tes amis, lorsque tu as amené l'argent, il vous amène à la commission de discipline, et bien vous êtes renvoyé devant
mais
tout le monde.
Certains professeurs ne résistent plus devant les enveloppes des
d'ailleurs,
étudiants.
D'ailleurs, c'est ce qu'on dit qui exige. Et on appelle ça la concussion. C'est pourquoi j'ai dit la corruption ne marche pas seule.
Oui.
Et là, avec elle, le détournement du bien public, et là, avec elle, la concussion, donc la réclamation de l'argent, et puis les faux, le mensonge, tout ça, la corruption, dans son conglomérat de démarches, emporte tous ces gens-là. Donc, bref, l'enseignement, c'est la chose dans laquelle nous devions protéger la République et que la corruption n'ait pas sa place. C'est à cause du fait que les gens sont corrompent déjà les enseignants. Voyez que la corruption devient principe.
Et il n'y a pas des gens qui dénoncent ça aussi. C'est un problème. Non, ça fait... Un instant, on va accueillir Mustapha de Lubumbashi. On va terminer avec lui. Mustapha, bonjour.
Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Je voulais poser une question à l'invité.
Oui.
Est-ce que c'est, on peut porter plainte contre une école? À ce moment donc des inscriptions, vous allez, on vous dit de passer un examen d'admission.
Oui.
Vous passez l'examen, mais à la fin, on vous demande toujours de donner de l'argent pour que vous puissiez intégrer cette école. Donc, on peut porter plainte cette école-là ou pas?
D'accord. Maître Ruffin, peut-on porter plainte?
Oui. Je voulais aussi interpeller nos députés.
Oui.
Parce qu'on voit dans notre pays, quand il y a la population réclame quelque chose, les députés aussi encouragent cela. Mais ici, même si la population se dit cette question de la corruption a fait donc a coulé beaucoup de salive et de langue, les députés donc ne font rien. Ils restent seulement inactifs.
D'accord. Merci. Merci, Mustapha. D'accord. Merci. Maître Ruffin, en quelques secondes, on n'a plus assez de temps. Vous pouvez répondre à ces auditeurs.
Mais la corruption, on est en quelque sorte dans le régime de qui vive la corruption. On aurait dû être dans le régime qui vive l'impunité de la corruption. Hélas, il y a certaines circonscriptions électorales qui se sont vues dotées d'un député qui n'ont pas élu. Tout simplement parce que la corruption a pris le dessus. Donc il faut nous battre. Ça doit commencer. Vous avez demandé si on peut porter une plainte contre une école. Ils ont soumis les enfants à l'examen ou aux épreuves, aux tests.
On demande
et après, pour réussir, il faut l'argent. Il faut absolument dénoncer. Il faut dénoncer. Notre pays.
La première chose, c'est de dénoncer.
Il faut dénoncer.
Auprès de qui?
Il faut dénoncer.
Auprès de qui?
À la hiérarchie de l'école. À la hiérarchie de l'école.
Oui.
La plupart des écoles sont conventionnées, catholiques, protestantes, musulmanes. L'hiérarchie, donc, la congrégation. La congrégation de l'école. Ou si c'est une école officielle, vous dénoncez ça auprès du gouverneur des provinces ou auprès de l'inspecteur provincial de l'enseignement. Donc, il y a des institutions auprès desquelles on peut dénoncer. Ces phénomènes gangrènent les pays parce que personne ne dénonce.
Est-ce qu'on peut aller directement au tribunal?
On peut aller directement au tribunal si vous avez déjà les preuves, si vous avez des preuves et des témoignages. Vous pouvez aller directement au tribunal. C'est-à-dire, la corruption est telle que lorsque chaque fois vous allez vous plaindre, la personne vient et laisse l'argent. Je vous ai dit que non, la première institution attaquée par
la justice,
par la corruption, c'est les surveillants, n'est-ce pas?
Les surveillants.
C'est-à-dire,
celles-là qui sont sanctionnées,
ce sont eux que la corruption a attaqué le premier. Donc, bref, nous devons veiller, c'est une question fondamentale. Lorsque les surveillants, et lui attaquer le premier, il n'y a pas d'espoir pour la population qui était dans la parcelle protégée par les surveillants. Donc, notre surveillant, ce sont ces institutions-là que j'ai citées. Le Parlement, la justice, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances. Ce sont les surveillants pour protéger les deniers publics, pour protéger la conduite de tous les fonctionnaires, quel que soit son niveau.
Mais la loi est faible, il faut renforcer aussi la loi.
Absolument,
la loi est très faible.
Nous avons déjà proposé plusieurs fois ici, il faut renforcer la loi. Que font les députés? Ce sont des mots qui détruisent le pays. Mais la corruption, ça fait plaisir.
Et comment c'est géré dans d'autres pays? Comment on traite la corruption, les cas de corruption?
Dans d'autres pays, d'abord, vous voyez par exemple au Sénégal. C'est une cour spécialisée au Sénégal. C'est lui qui est en train de poursuivre. Donc, la cour ou celle qui est en train de poursuivre, n'est-ce pas, le ministre. C'est méga ministre, n'est-ce pas, le fils du président de la République.
Spécialisée.
Pour il faut des institutions spécialisées. Parce que les institutions existantes ont été déjà paralysées. Il faut des institutions spécialisées. Il faut des juridictions spécialisées. Par exemple, tous ces fonds qui sont détournés par les fédérations de sport. Il faut donc un procureur auprès des. J'avais déjà proposé ça d'ailleurs au ministre à l'époque.
Oui.
Un procureur auprès du stade des martyrs ici, avec toutes les fédérations.
Pour tous les cas de corruption.
Procureur prêt et. Il faut un procureur prêt le gouvernement, il faut un procureur prêt les marchés publics, les marchés centrales, tous ceux qui se commettent là-bas. Il faut un procureur, il faut rendre la justice, cette justice authentique que nous avons héritée de la Belgique, de la colonisation, n'est plus à mesure d'affronter ces phénomènes et de les vaincre. Il faut réformer cette justice et rendre...
Une justice de proximité.
De proximité qui agisse immédiatement. Réaction rapide. Nous avons une justice, c'est-à-dire le surveillant et a déjà été gangréné. Elle est incapable, ou il est incapable, de d'affronter les phénomènes. C'est comme ça que nous sommes paralysés parce que le surveillant, lui, a été déjà anéanti, maîtrisé.
Voilà.
Et nous retrouvons là, nous crions la corruption.
Mais il faut, on
ça détruit
faut,
le pays parce détruit, que ça commence choses. Par l'école. Il faut que dans les enseignements primaires et secondaires,
oui.
on puisse se redresser.
Insérer même des certaines matières.
Rien à faire. Évidemment, contre la corruption. Contre la corruption n'existe pas dans les écoles.
Oui.
Quelle formation nous avons aujourd'hui? Il faut donc former la jeunesse à commencer par l'école pour que lorsqu'ils arrivent à l'université, ils savent que la corruption est proscrite. Et si on vous attrape, vous partez. Si on vous attrape, vous partez. Dans l'armée, vous policiers, dans les centres d'instruction, on vous attrape dans tel acte de corruption, vous quittez, n'est-ce pas?
Vous détournez la solde des militaires. On vous
à l'époque, même lorsque on vous a chassé d'une école, on communique aux autres écoles. Lorsqu'on vous a chassé d'un service, on communique aux autres services que nous, ce monsieur-là, c'était corrompu. Vertébré. Et donc, vous ne pouvez plus être récupéré. Mais tout ça, parce que le surveillant a été
anéanti, neutralisé.
Et puis, lorsque les députés doivent être corrompus, vous voyez là où nous sommes.
Bien, maître Christian Loukou, juriste écrivain, chercheur en droit, merci. Et à la prochaine.
Je vous en prie.